Bonjour à tous. Il y a 6 ans, nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient tués au Mali. Mais aujourd'hui encore, de nombreuses questions se posent. L'armée a-t-elle tout dit sur les circonstances de leur mort? Les services de renseignement français n'ont-ils pas joué avec le feu en tentant de recruter l'un des ravisseurs? Et que dire de cette mystérieuse écoute téléphonique dont aurait parlé François Hollande? Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Jacques.
Alors vous avez enquêté sur tous ces éléments et vous allez donc nous faire part de ce que vous avez découvert.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Les corps des deux journalistes viennent d'être rapatriés en France. Recouverts d'un linceul sombre, les cercueils de Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, sont transférés dans le pavillon d'honneur de l'aéroport.
Voilà, c'était en novembre 2013. Les journalistes de RFI ont été enlevés, puis assassinés, alors qu'ils se trouvaient en reportage à Kidal, au nord du Mali. Une affaire qui pourrait a priori sembler assez simple à élucider. Sauf que 6 ans après les faits, Élodie Guéguin, eh bien de nombreuses zones d'ombre subsistent et la justice française n'a toujours pas bouclé son enquête.
Oui, alors elle penche bien pour une version officielle. Des Maliens armés, liés au groupe terroriste ACMI, auraient voulu gagner de l'argent en enlevant les deux Français. Mais après le rapt, la machine se grippe, leur pick-up tombe en panne à 10 km à la sortie de Kidal. Les terroristes paniquent et ils tuent leurs otages.
Alors ça, c'est donc la version officielle, mais ce scénario ne convainc pas les proches des victimes.
Non, eux ont l'impression que les autorités françaises cherchent à dissimuler une partie de la vérité. Ce sentiment, il est résumé par Pierre-Yves Schneider, porte-parole de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
En ce qui concerne les déclarations des autorités, c'est du n'importe quoi. On s'est heurté depuis 6 ans, soit du silence, soit des mensonges. Soit des mensonges par omission, ou bien une réelle volonté de ne pas dire la vérité. Nous en sommes certains.
Mais qu'est-ce qui explique cette amertume, Élodie? Pourquoi ce sentiment qu'on voudrait leur cacher des choses?
Alors pour le comprendre, Jacques, il faut rappeler qu'au Mali, à cette époque, les islamistes font régner la terreur dans le centre et le nord du pays. Les prises d'otages sont devenues un business, les destructions de sites historiques se multiplient. On pense notamment aux splendides mausolées de Tombouctou.
Oui, c'est d'ailleurs officiellement pour ça que l'armée française a dû intervenir.
Oui, le 11 janvier 2013, François Hollande lance l'opération Serval. 3000 militaires français sont déployés dans la zone sahélo-saharienne pour combattre le terrorisme.
Et certains de ces militaires sont donc présents à Kidal lorsque Claude Verlon et Ghislaine Dupont sont enlevés.
Oui, lorsqu'ils arrivent sur place, il y a des soldats de Serval, il y a des membres des forces spéciales, il y a aussi des agents français du renseignement. Et malgré cette présence, le commando malien qui s'apprête à enlever les journalistes n'est pas repéré.
Oui, en même temps, Élodie, ça peut s'entendre, non? Les militaires ne peuvent pas tout savoir.
Oui, mais ce que révèle le dossier judiciaire est tout de même assez troublant. L'un des hommes qui a enlevé Ghislaine Dupont et Claude Verlon s'appelle Baye Akbakabo. Et c'est son pick-up qui a servi à l'enlèvement. C'est un ancien trafiquant proche d'organisations islamistes. Or, peu avant le drame, cet homme avait été repéré par les services de renseignement sur place. Il était donc connu des forces françaises à Kidal qui le surveillaient. La fille de Claude Verlon, Apolline, se demande donc comment il a pu passer entre les mailles du filet dans une ville cernée par les militaires.
Comment quelqu'un qui est identifié, qui est géolocalisé, qui est suivi des services, peut commettre un rapt et un assassinat ? En plein Kidal, en plein jour, en plus en passant entre des postes de sécurité. Enfin, je me revois encore à Charles de Gaulle le 5 novembre au matin, demander à Laurent Fabius comment c'est possible.
Ouais, Laurent Fabius qui était à l'époque, on le rappelle, hein, ministre des Affaires étrangères. Mais ça veut donc dire que ce Bakabo était connu des militaires français?
Alors non seulement il était connu, suivi, mais il était même peut-être une source pour nos services de renseignement.
Une source? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Eh bien, nous avons eu accès à des notes de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Voilà ce qu'on y apprend. En 2012, le suspect, Bakabo, combattait auprès de groupes djihadistes. Début 2013, il s'éloigne de ces groupes et revient vivre à Kidal. Il est alors auditionné par les forces françaises, il est débriefé, comme on dit dans le jargon du renseignement. Voilà ce qu'écrivent les espions français dans leur rapport, quelques mois avant le meurtre des journalistes.
Nous avons demandé à Bayek Bakabo de venir parler avec les forces françaises en lien avec l'officier traitant de la DGSE. Lors de l'audition, il a déclaré avoir suivi 6 mois d'entraînement à l'armement léger et au combat lors de son entrée dans le mouvement djihadiste. En date du 9 mars 2013, il détenait toujours une Kalachnikov. Nous lui avons demandé si une deuxième entrevue était envisageable. Il a accepté. Nous l'avons photographié, puis la source est repartie à bord de son pick-up de couleur sable.
Et c'est ce même pick-up de couleur sable qui, selon l'enquête, servira au rapt de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon 6 mois plus tard.
Donc un des principaux membres du commando meurtrier avait été approché par les services français.
Exactement. Or, il n'a pas été arrêté. D'ailleurs, la justice française n'a même pas émis de mandat d'arrêt international contre lui. En fait, tout ce qui concerne ce suspect est comme entouré d'un halo de mystère. Bakabo a-t-il travaillé pour les services français? C'est une question qui hante toujours la fille de Claude Verlon.
Est-ce que Bakabo était chargé d'une mission pour les Français? Est-ce que c'est un type qui s'est juste dit un matin, tiens, il y a 2 Français là, je vais me faire de la thune? Je pense que les services ont les réponses, mais que ça peut-être ne les arrange pas de nous les faire savoir. Quand il y a une erreur, où il y a des compatriotes qui meurent quelque part, on devrait lever le voile, aider les familles à faire la lumière sur la mort de leurs proches, quoi.
Ouais, c'est une demande de vérité qu'on entend. Mais sur le fond, Élodie, recruter des informateurs dans les milieux djihadistes, c'est courant ?
Oui, quand l'armée française intervient au Mali début 2013, elle cherche à collecter du renseignement. D'abord sur les différents groupes terroristes présents dans la zone et sur les otages occidentaux que ces groupes retiennent. À l'époque, il y a 6 Français aux mains d'ACMI. Elle va donc être peu regardante sur le profil de ce qu'elle recrute. Elle approche certains djihadistes et aussi des rebelles armés, notamment des Touaregs à Kidal, dans le Nord, qui étaient pour beaucoup regroupés au sein d'un parti appelé le MNLA. La France pense alors que ces hommes peuvent être utilisés comme des sources par nos services de renseignement, analyse le journaliste spécialiste de l'Afrique, Thomas Hofnung.
Dans cette poudrière qui est devenue le nord du Mali, ils veulent ménager certains réseaux Touareg qui les ont aidés pendant les opérations contre les djihadistes et qui peuvent les aider demain pour identifier qui fait quoi et pour essayer aussi de retrouver la trace des otages français qui sont en main des djihadistes et dont on est sans nouvelles. Et on a besoin donc d'informateurs locaux pour retrouver leurs traces.
Donc ces indépendantistes Touareg du Nord Mali deviennent de fait des alliés des services français ?
Oui, et les services français ne s'en rendent pas forcément compte immédiatement, mais avec ces indépendantistes, ils jouent avec le feu, car la frontière entre les rebelles du MNLA et les organisations terroristes est parfois floue, explique l'analyste nigérien Sedi Kaba.
La difficulté, c'est que il y a une grande porosité entre les mouvements armés et les groupes djihadistes. Certains sont djihadistes le jour, sont groupes armés le soir et vice-versa. Donc, il y a une porosité et je pense que la France le sait. Mais quand l'armée française a commencé à arrêter ceux qui faisaient le double jeu, ceux qui étaient à la fois MNLA et terroristes, il y a eu des levées de boucliers de la part du MNLA, il y a eu des cris de trahison et puis bon, la France a un peu levé le pied.
Un peu levé le pied, c'est-à-dire ?
Eh bien, certains djihadistes auraient bénéficié d'une sorte d'impunité à Kidal. Ces rebelles se seraient présentés comme des repentis. À l'image, vous savez, de ce suspect Bakabo dont on parlait tout à l'heure. Les services français connaissaient leur parcours, leurs activités, mais ils auraient en quelque sorte fermé les yeux.
Oui, on aurait donc ménagé des djihadistes.
Oui, mais c'est un classique dans la lutte contre le terrorisme à l'étranger. On peut observer le même phénomène avec ce qu'on appelle les cibles à valeur ajoutée.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on sait maintenant qu'il existait des listes de terroristes que la France souhaitait abattre, mais il y a eu d'importants désaccords entre services sur cette question, raconte encore Thomas Hofnung.
Au début de l'opération Serval, la direction du renseignement militaire et donc, autrement dit, l'institution militaire voulait frapper toutes les têtes du réseau djihadiste. Et on savait que les services de renseignement français, donc la DGSE, avaient tracé les téléphones satellites, etc., des principaux responsables des réseaux djihadistes. Et donc, il y avait la possibilité, si Paris le souhaitait, de les neutraliser, comme on dit, autrement dit, de les éliminer. Et d'après les témoignages qu'on a recueillis, la DGSE s'y est opposée en expliquant qu'il fallait en tout cas continuer à pouvoir suivre certains responsables djihadistes parce que notamment ils pouvaient mener à la libération des otages.
Et c'est pour ça qu'on les aurait épargnés ?
Exactement, et il y a un nom qui revient particulièrement parmi ceux qui auraient ainsi échappé à l'armée française, Iyad Agrali.
Pardon ?
Oui, alors son nom ne vous dit peut-être rien, Jacques.
Non, je le confesse.
Pourtant, il faut savoir que cet homme est aujourd'hui l'ennemi numéro un de la France au Sahel. Son parcours est assez stupéfiant. Ce notable Touareg, indépendantiste modéré, proche de l'Algérie, était un bon vivant que vous pouviez croiser dans les cafés parisiens dans les années 80. Il a conseillé plusieurs présidents, il est même devenu consul du Mali en Arabie Saoudite. Mais dans les années 2010, il bascule dans le djihad armé et depuis, son ombre plane sur la plupart des enlèvements d'occidentaux dans la région.
Et il n'a jamais été arrêté ?
Eh bien non, et c'est ce qui étonne l'anthropologue spécialiste de la question Touareg, André Bourgeot.
J'observe qu'effectivement, c'est quelqu'un qui circule dans le Sahara comme il l'entend. Il va en Algérie comme il veut, ensuite il revient sur le territoire malien comme il veut. Donc dans ces circonstances-là, avec tous les moyens techniques dont disposent les forces militaires étrangères, je ne comprends pas pourquoi tous ces moyens techniques ne permettent pas de le localiser quelque part au Mali. Donc c'est la porte ouverte à tout un tas d'interprétations et on peut se demander, est-ce que ce monsieur ne fait pas le jeu d'un peu tout le monde ? Des autorités maliennes, des autorités algériennes et puis aussi probablement de la communauté internationale. Vous n'allez pas me faire croire que quelqu'un comme ça, qu'on ne peut pas intervenir pour le liquider.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu pourquoi la France, au nom de ses intérêts, semble avoir ménagé certains djihadistes au Sahel, revenons aux circonstances de la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, Élodie Guéguin, parce que là aussi, beaucoup de questions se posent.
Oui, les proches des victimes s'interrogent sur le rôle qu'auraient joué les militaires au moment même du drame. Parce que le 2 novembre 2013, lorsque Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont enlevés, ce sont d'abord des casques bleus de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, qui se lance à la recherche des ravisseurs. Puis, à quelques kilomètres à la sortie de Kidal, l'armée française prend le relais, mais officiellement sans parvenir à rattraper les terroristes. Et plus tard, les corps criblés de balles de Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont découverts à côté du pick-up abandonné, comme l'explique à l'époque sur RTL le ministre Laurent Fabius.
Ce pick-up a été arrêté en plein désert. La voiture était fermée, le Neyman était mis. Aucune trace d'impact sur la carrosserie, ce qui veut dire donc qu'il n'y a pas eu d'échange de combat.
Vous l'entendez, les autorités françaises insistent bien à l'époque, il n'y a pas eu de combat, pas d'accrochage. D'ailleurs, il n'y aurait même pas eu de contact visuel entre l'armée et les preneurs d'otages. Les militaires de la force Serval seraient arrivés après le drame.
Et c'était pas le cas ?
Eh bien, selon plusieurs témoins entendus depuis, il y aurait pourtant bien eu une course-poursuite entre les militaires et les ravisseurs, et même un accrochage avec la force Serval, et ça aurait eu des conséquences. Un djihadiste a raconté à la justice malienne que l'enlèvement des journalistes de RFI avait été ordonné par un certain Abdelkrim le Touareg, un cadre d'ACMI, mais que son plan, à l'origine, ne prévoyait en aucun cas d'exécuter les journalistes. Nous avons fait lire un extrait de cette audition.
Je sais que leur enlèvement a été organisé par Abdelkrim. Mais lorsque ces hommes ont voulu revenir avec les deux journalistes dans leur camp, leur voiture est tombée en panne. C'est à ce moment-là qu'il y a eu accrochage avec Serval. Les hommes d'Abdelkrim s'en sont sortis. Mais pour la mort des deux journalistes, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ouais, donc ce serait cet accrochage qui aurait créé un moment de panique et qui aurait pu entraîner la mort des deux Français. Sauf que cette version, Élodie, bien, elle n'est pas confirmée par les autorités françaises.
Non, mais elle est tout de même évoquée dans un rapport des Nations Unies que nous nous sommes procurés. Écoutez ce qu'écrivent les enquêteurs de l'ONU.
La poursuite aérienne et terrestre menée par la force Serval a empêché les ravisseurs de fuir facilement vers la frontière. Cela a pu les conduire à éliminer les journalistes qui les gênaient dans leur fuite.
Alors vous l'entendez, l'ONU évoque aussi l'hypothèse d'une poursuite aérienne. Ce n'est qu'une hypothèse, mais plusieurs témoins ont raconté qu'il y avait bien un hélicoptère français au-dessus de Kidal au moment du drame.
Et puis d'autres révélations jettent également le trouble sur la version officielle.
Oui, l'armée française a toujours assuré que c'était une colonne de 6 blindés de l'opération Serval qui était partie sur la trace des preneurs d'otages. Mais un haut gradé de la MINUSMA vient là encore contredire cette version. Il y a quelques semaines, il a raconté à nos collègues du service Afrique de RFI que ce n'est pas l'armée conventionnelle qui était intervenue ce jour-là, mais bien les forces spéciales, comme le raconte le journaliste David Bachet.
Au kilomètre 7, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bataillon de la MINUSMA cède la place aux forces spéciales qui vont, à leur tour, prendre en chasse les ravisseurs. Et donc ça, c'est dit noir sur blanc dans un rapport interne de la MINUSMA. C'est un haut gradé de la MINUSMA qui en témoigne. C'était des véhicules légers, 3 hommes par véhicule, une 12-7, une mitrailleuse 12-7 par véhicule. Et ça, cette description, elle correspond parfaitement au type d'engin qu'utilisent les forces spéciales lorsqu'ils sortent sur le terrain. Et ils ne correspondent pas du tout à la description de la colonne de blindés qui a toujours été présenté par l'armée française, puisque selon la version officielle de l'armée française, ce ne sont pas des forces spéciales et ce ne sont pas des véhicules légers qui ont découvert les corps de nos amis, mais c'est une colonne composée de 6 blindés et d'une 30aine d'hommes.
Et je précise que sur ces révélations de RFI, l'armée n'a pas souhaité faire de commentaires.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que les versions divergent sur ce qui s'est passé lors du drame de Kidal, Élodie Guéguin, penchons-nous sur les difficultés qu'ont les familles à obtenir des informations, parce qu'elles se heurtent toujours à cette véritable muraille de Chine qu'est ce qu'on appelle le secret défense.
Oui, alors les juges français en charge de cette affaire ont tout de même obtenu la déclassification de centaines de documents, ce qui n'est pas rien. Ce sont des notes, des PV de la Direction du renseignement militaire et de la DGSE, mais lorsqu'ils les ont épluchés, les proches des victimes sont tombés de haut, car dans ces documents, beaucoup de passages restent classés secret défense, comme le raconte la fille de Claude Verlon.
On s'est tous battus pour avoir ces documents, et une fois qu'on les a reçus, c'était comme, pas un cadeau de Noël, mais vous imaginez, vous recevez plein de papiers, vous vous dites, non mais c'est génial, on va pouvoir décortiquer tout à la lettre, savoir ce qui s'est passé, remonter le fil de l'histoire. Ben voilà, tout va s'éclaircir. Eh ben non, parce que vous avez, si c'est pas plusieurs lignes, c'est plusieurs pages, qui manquent. Donc là, vous commencez une phrase, vous dites « Ah mais ça serait génial, attends, ah non !»« Ah mais non, ils l'ont barré, donc vous pouvez pas savoir. » L'info importante, elle est noircie. Et quand vous demandez, ben voilà, mais au moins, monsieur le juge, vous ne pourriez pas, vous, avoir accès à ce truc-là. Non, c'est le secret défense. Ben voilà, c'est la loi, quoi.
Ah, donc on leur a donné des documents inexploitables.
Exactement, et les parties civiles se sentent d'autant plus flouées qu'elles sont par ailleurs convaincues qu'on leur cache aussi l'existence d'écoutes téléphoniques qui pourraient être déterminantes.
C'est-à-dire ?
Eh bien, dans le milieu du renseignement, on appelle ça des interceptions. Or, au Sahel, au nom de la lutte antiterroriste, les grands services de renseignement procèdent à de très nombreuses écoutes, comme le raconte le spécialiste de l'Afrique, Thomas Hofnung.
Il y a les grandes oreilles, comme on dit, qui sont déployées sur place. Les Américains ont des moyens bien plus puissants que les moyens français. Et très souvent, c'est eux qui fournissent les interceptions. Bien sûr, la question se pose de savoir si au moment de l'enlèvement de nos deux collègues de RFI, si des conversations ont été enregistrées. Il est fort probable qu'il y ait des interceptions, mais qui sont toujours classées secret défense.
Mais fort probable, Élodie, ça ne veut pas dire certain?
Non, sauf que là encore, un homme politique semble avoir mis les pieds dans le plat, et en l'occurrence, François Hollande. Devant les proches des victimes, l'ancien président de la République aurait évoqué l'existence d'une écoute, un son, comme on dit aussi, au sujet du double meurtre, et pas qu'une fois, soutient Apolline Verlon-Raison.
À plusieurs reprises, devant témoins, on était plusieurs à avoir entendu la même chose. Il y a un son qui existe, qui a été intercepté au lendemain de l'assassinat de Ghislaine et papa, qui dirait « Pourquoi vous avez tué la marchandise ?» Mais c'est hyper important, on a besoin de ce son pour savoir qui parle, à qui, d'où ça vient, de tracer.
pour qu'on comprenne bien, c'est François Hollande qui vous parle de cette interception.
C'est François Hollande qui nous parle de cette interception téléphonique entre X et Y, où au milieu, on vous parle de votre père qui était de la marchandise et qui a été assassiné. On a abîmé la marchandise. François Hollande dit devant ma tante, devant ma mère, devant mon compagnon, devant la mère de Ghislaine, devant les amis de Ghislaine, il tient ce discours. Et là, on se regarde tous en disant bah alors, il faudrait porter au dossier, en fait. Mais oui, je m'engage à tout faire pour qu'il soit porté au dossier.
Et ça a été porté au dossier ?
Alors, non seulement ça n'a pas été versé à la procédure pénale, mais les familles des journalistes ont demandé au juge d'instruction d'auditionner François Hollande pour qu'il s'explique sur cette troublante confidence. Et là, les proches des victimes ont eu une sacrée surprise. Devant le juge, il y a quelques mois, il n'a pas confirmé avoir tenu ses propos. Nous avons fait lire un extrait de son audition.
Ai-je parlé aux journalistes d'une interception ? Je n'en ai pas le souvenir. Ce que j'ai dit, en revanche, c'est que nous étions confrontés à un commanditaire qui voulait prendre des otages pour les monnayer. C'est la raison pour laquelle le mot affreux de « marchandise » a pu être utilisé, car il est juste.
Dans ce dossier, avez-vous connaissance de l'existence d'interceptions ?
Je ne peux pas vous répondre précisément. Je ne crois pas.
Oui, on sent un François Hollande plutôt embarrassé, là.
En effet, mais l'histoire ne s'arrête pas là, Jacques. Par la suite, c'est l'ancien patron de la DGSE, Bernard Bajolet, qui se retrouve dans une position délicate.
C'est-à-dire ?
Eh bien, lors d'un entretien informel, des collègues de Ghislaine Dupont et Claude Verlon lui demandent si cette écoute, évoquée par François Hollande, a bien existé. Selon eux, il répond alors que oui, avant de se rétracter, lui aussi, devant le juge.
Et aujourd'hui, alors, ils en disent quoi de cette contradiction ?
Eh bien, j'ai contacté François Hollande et il nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas s'exprimer puisqu'une enquête judiciaire est en cours. Mais cette attitude déçoit la fille de Claude Verlon.
Soit c'est hyper grave de mentir, soit c'est hyper grave d'avoir fait espérer aux familles qu'existait ce son. Enfin, dans tous les cas, on devrait pouvoir aujourd'hui entendre sa parole. J'ai cherché à le joindre plusieurs fois. Dès que j'ai entendu cette information sortir après son audition, j'ai cherché à le contacter, il m'a jamais répondu. Donc il est où ce père qui s'est engagé à tout faire pour que l'enquête soit menée à bien ? J'ai zéro réponse. Et j'en ai pas plus du nouveau président de la République. Emmanuel Macron est mutique sur le sujet. On est abandonné dans le désert là.
Ouais, une fois de plus, c'est donc le secret hein, qui domine. Et on va en rester là, mais provisoirement. Restez avec nous parce que dans quelques instants, on va explorer une autre piste. Piste qui pourrait bien expliquer d'ailleurs pourquoi les deux journalistes ont été enlevés.
Thank you.
Ça sonne soul et on aime bien, c'était So Caught Up, extrait du deuxième album du groupe australien qui monte, les Teske Brothers.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Et retour à notre récit, on va maintenant partir sur une autre piste, Élodie Guéguin. On va se demander s'il n'y a pas un lien entre la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon et la libération des otages d'Arlit. Parce que ces employés français d'Areva, qui eux avaient été enlevés par Acme au Niger en 2010, ont été libérés au Mali juste avant la mort des deux journalistes de RFI.
Oui, en fait, le drame de Kidal s'est produit 4 jours seulement après la libération des otages. Rappelez-vous, cette libération avait été très médiatisée.
Le Drian, le ministre de la Défense qui est là, accueilli par François Hollande, prenez une main chaleureuse, et les ex-otages. Et on entend les cris de joie des familles. Hein. C'est vraiment énormément d'émotion ici sur le tarmac. Les cris de joie,
les pleurs
de plusieurs familles et évidemment tout le monde qui s'embrasse et les larmes qui coulent sur beaucoup de visages.
Ouais, voilà pour cette remise en situation. C'était sur France 2 à l'époque. Maintenant, dites-nous Élodie, en quoi cet événement pourrait avoir un lien avec la mort des deux journalistes français?
Alors déjà, Jacques, on peut se demander si Ghislaine Dupont n'avait pas profité de sa présence à Kidal pour enquêter sur ce dossier des otages d'Arlit. C'est en tout cas ce que pense son ami Pierre-Yves Schneider.
Personnellement, j'ai eu Ghislaine au téléphone la veille de son départ pour Bamako. Elle m'a dit, mais tu sais, la semaine prochaine, il y aura probablement aussi les otages d'Arlit qui seront libérés. Elle le savait.
Oui, elle le savait, mais ça ne signifie pas pour autant qu'elle enquêtait sur le sujet. D'après ce qu'on savait, nous, au Mali, elle travaillait surtout sur les futures élections législatives. Non ?
Oui, mais parallèlement, elle s'intéressait aussi aux otages. Et ça, on le sait grâce aux investigations de nos confrères Geoffrey Livolzi et Michel Desprax. Leurs informations ont été diffusées dans le magazine Envoyé spécial sur France 2. Et le journaliste malien Cheikh Amadou Diouara, qui avait collaboré à cette émission, a maintenu cette version lorsqu'il a été interrogé par la justice. Nous avons fait lire un extrait de son audition.
Avant son arrivée au Mali, Ghislaine m'a demandé si je connaissais des gens qui étaient dans les filières de négociation pour la libération des otages d'Arlit. Elle voulait également savoir comment l'argent transitait.
Les otages d'Areva ont été enlevés à Arlit, au Niger, à 630 km de Kidal. En quoi se rendre à Kidal pouvait permettre à Ghislaine Dupont d'obtenir des réponses à ses interrogations sur la crise des otages d'Areva.
Les otages ont été retenus dans le cercle de Kidal. Les négociateurs français sont venus à Kidal. L'argent a été largué à Kidal. Il était donc logique que Ghislaine vienne à Kidal.
Donc elle s'intéressait bien à ce dossier, mais cela dit, Élodie, quand bien même Ghislaine Dupont enquêtait sur les otages d'Arlit, ça ne signifie pas pour autant que sa mort ait un rapport avec leur libération.
C'est vrai, sauf que plusieurs spécialistes de la région pensent le contraire.
Et pourquoi ?
Eh bien parce que le groupe d'Acme, dirigé par un certain Abou Zaïd, devait toucher une rançon de 30 millions d'euros en libérant les otages d'Arlit. Et il était censé en redistribuer une partie aux autres katibas, aux autres bataillons. Or, la Katiba, dirigée par le fameux Abdelkrim le Touareg, n'en aurait jamais vu la couleur. C'est en tout cas ce que nous a raconté Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE.
Quand la rançon a été payée aux terroristes d'Abou Zaïd, à ce moment-là, il y a un bruit qui a couru très vite chez les Touaregs, à Kidal et dans toute la région, disant qu'il manquait de l'argent dans la somme. Alors, il y a ceux qui ont bien sûr dit... C'est les Français qui en ont pris. Il y a eu une théorie qui a été d'ailleurs expliquée là-dessus, disant qu'il y a une partie de l'argent qui a été détournée avant versement. Il y a eu une deuxième version qui dit Abou Zaïd en a pris une partie et il l'a cachée et on l'a pu retrouver. Résultat, il y a des katibas qui ont dit mais c'est absolument scandaleux. Abdelkrim, par exemple, a bien dit que c'était pas normal, qu'il avait été spolié puisqu'il n'avait pas eu l'argent qu'il attendait. Peu de temps après, il y a les deux journalistes qui se font enlever à Kidal par des gens qui, comme par hasard, font partie d'une des katibas qui considéraient qu'ils avaient été spoliés en ne recevant pas l'argent qu'ils auraient dû avoir.
Donc l'enlèvement des deux journalistes pourrait être la conséquence de cette sombre histoire d'argent ?
C'est possible. En tout cas, ce que dit Alain Juillet est confirmé par un cadre d'ACMI, Ahmad Al-Mahdi, condamné par la Cour pénale internationale pour la destruction des mausolées de Tombouctou. Les juges sont allés l'auditionner à La Haye et voilà ce qu'il leur a expliqué.
Il y a un lien très étroit entre la libération des otages d'Arlit et l'enlèvement des journalistes de RFI. Abou Zaïd a obtenu 30 millions d'euros pour les otages d'Arlit. Abdelkrim Le Touareg était très dépité du peu d'argent que ses katibas avaient gagné dans cette affaire, parce qu'Abou Zaïd avait presque tout gardé et enterré l'argent dans le désert.
Mais si cette hypothèse est plausible, Élodie, alors pourquoi la justice ne la retient pas ?
Difficile de répondre, hein, car les juges ont refusé de s'exprimer. Mais là-dessus, écoutez encore ce qu'en pense Alain Juillet.
C'est plus facile, c'est vrai, de dire bon, bah, y a une tentative de prise d'otage qui a été loupée puisque le véhicule tombe en panne et ils ont exécuté les otages. Ça permet de bloquer la problématique sur un peu d'une petite zone, alors qu'évidemment, si on commence à dire « mais est-ce que c'est pas la conséquence de l'absence d'argent reçu lors de la rançon d'Arlit ?» Là, ça devient évidemment autre chose et beaucoup plus compliqué à gérer.
Ouais, plus compliqué parce qu'officiellement, la France a toujours dit qu'elle n'avait pas payé de rançon. Donc ouvrir cette boîte-là, ce serait se heurter à nouveau à la parole officielle et au secret défense.
Oui, sauf que c'est un secret de polichinelle, Jacques. L'argent finit toujours par être versé, d'une façon ou d'une autre. Pour l'analyste Sedi Kaba, il faudrait donc lever le voile sur cette histoire de rançon dans l'affaire d'Arlit, si on veut connaître la vérité sur la mort des journalistes de RFI.
C'est une sorte d'hypocrisie. Tout le monde sait que l'argent, s'il n'est pas versé par l'État, s'il n'est pas sorti par le trésor public, vient de certaines institutions. En l'occurrence, l'argent vient d'Areva. Le business des otages, d'après une évaluation des Nations Unies, le business des otages ces deux dernières années, c'est près de 150 millions d'euros qui ont été versés par les États occidentaux à des groupes djihadistes. D'ailleurs, certains pensent que c'est même cette puissance financière qui a fait que les groupes ont pu avoir la résilience qu'ils ont eue, ont pu continuer à recruter parce que le business leur a beaucoup rapporté. Or, il se trouve que par le passé déjà, il y a eu des problèmes de répartition. Pour moi, il faut interroger des acteurs clés pour savoir comment le circuit a été fait, comment l'argent a été convoyé jusqu'à ce qu'ils aient libéré les otages d'Arlit.
Ouais, il faudrait remonter donc le fil de l'argent. Bon, maintenant, en attendant, Élodie, aujourd'hui, dans l'affaire de la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, personne n'a été arrêté ?
Arrêté au sens policier du terme, non. 6 ans après les faits, on l'a vu, plusieurs suspects courent toujours, dont Bayak Bakabo, le chef présumé du commando de ravisseurs.
Ouais, celui qui avait été approché par la DGSE.
Exactement. Et d'autres ont été tués, soit dans des combats avec l'armée française, soit dans des actions ciblées. Mais cela, pour la fille de Claude Verlon, Apolline, c'est aussi problématique, car ça signifie qu'ils ne seront jamais traduits en justice.
Ce que j'aimerais, c'est un jour voir juger les gens qui ont participé à cet assassinat. Et depuis que l'enquête a été ouverte, plusieurs ravisseurs ont été assassinés par l'armée française. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Donc ils seront jamais entendus. Est-ce que ce sont des gens dangereux ? Ah bah oui, ok, on a pu le voir, alors que ce sont des gens dangereux, mais vous êtes certainement des moyens de les interpeller, enfin. Mais c'est terrible de conclure en se disant « Bon, de toute façon, je crois même pas en la justice de mon pays, quoi. »
Et c'est pourtant là-dessus qu'on va conclure, Élodie.
Oui, alors je précise quand même que dans cette affaire, nous avons cherché à obtenir des réponses de François Hollande, de Jean-Yves Le Drian, du ministère de la Défense, de la DGSE, de la MINUSMA au Mali, ainsi que du juge français en charge de l'affaire. Et personne n'a souhaité s'exprimer.
Bien, merci Élodie Guéguin. Alors je précise que votre enquête, on peut, comme chaque semaine, la réécouter, la lire, la podcaster aussi sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert, et à la technique cette semaine, Stéphane Boja. Dans quelques instants, vous retrouverez Emmanuel Quérad et sa librairie francophone. Il recevra notamment Amélie Nothomb. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.